Aligre FM 93.1 Harmonie du soir. Il est 19h sur l'antenne d'Aligre FM, l'heure pour vous de retrouver, comme chaque semaine, Harmonie du soir, 109e numéro aujourd'hui, deuxième épisode de notre série consacrée à la musique vocale au XVIIe siècle. Nous nous rendons en Allemagne à la découverte de l'œuvre et de la vie du compositeur Heinrich Schütz, le père de la musique allemande. Nous avons évoqué lors de notre précédent épisode cette véritable révolution qui s'opère en Italie au tournant des XVIe et XVIIe siècles et qui consiste en l'avènement progressif du style monodique et de la basse continue. Et ce, pour permettre à la musique de mettre en valeur le texte. Cette révolution a son maître, Claudio Monteverdi. Elle aura un impact décisif sur les autres pays d'Europe. En Allemagne, le maître de la musique au XVIIe siècle, celui que l'on appellera le père de la musique allemande, se nomme Heinrich Schütz. Son œuvre est au croisement de l'influence italienne et de la polyphonie franco-flamande. Elle suivra une trajectoire singulière, ancrée dans la tradition de son pays, une tradition luthérienne, et qui connaîtra différentes phases dont nous allons vous retracer l'évolution. Schütz naît en 1585 et meurt en 1672. Il sera rattaché à la cour de Saxe, protégé par Johann Georg Ier, électeur et archimaréchal du Saint-Empire, puis Johann Georg II qui lui succède, avant de se retirer dans sa contrée natale passé la soixantaine, à Weissenfels, tout en gardant des obligations avec la cour. Cette fidélité à Dresde ne l'empêchera pas de séjourner à deux reprises en Italie, où il suivra successivement l'enseignement de Gabrielli et de Monteverdi. Et aussi, fuir le désastre de la guerre de 30 ans en séjournant également au Danemark. Durant cette période, troublée par les ravages de la guerre, il ne cessera de se battre pour trouver les moyens de subsistance de sa chapelle et entretenir ses musiciens. Sur le plan personnel, la vie de Schütz s'est marquée par la mort brutale de sa jeune épouse, 6 ans seulement après son mariage en 1619. Cette vie, également troublée par une guerre des plus meurtrières, par une épidémie terrible de peste noire qui sévit notamment en Allemagne, Schütz la traversera dans sa relation constante avec la musique et avec Dieu. Une musique vocale, une musique dont nous ne conservons aujourd'hui que les pages religieuses, les œuvres profanes ayant disparu dans les incendies du château de Dresde au XVIIIe siècle ou n'ayant tout simplement jamais été publiées. À ce titre, Schütz sera le premier compositeur allemand à importer l'invention italienne de l'opéra dans son pays, avec une Daphné qui date de 1627 et qui est représentée au château de Hartenfels à l'occasion du mariage de la fille du prince électeur avec le landgrave de Hesse-Darmstadt. Cette œuvre n'a jamais été imprimée, nous ne la connaissons plus aujourd'hui, mais elle est un témoignage de la modernité de Schütz, l'opéra connaissant un développement plus tardif et plus lent outre-Rhin. Nous l'avons dit, Schütz et son œuvre sont en large part l'expression de sa foi, et c'est dans cette relation qu'il faut en déceler la courbe d'évolution. Comme tout musicien allemand, il est formé dans la tradition polyphonique franco-flamande, mais aussi celle du choral luthérien, de la chormusique allemande. Son premier séjour en Italie auprès de Gabrieli va le conforter dans ses fondements, tout en l'ouvrant à des éléments de modernité, notamment par la découverte d'un style concertant tel que pratiqué par le maître. Ce style permet aux voix ou aux groupes de voix de la polyphonie d'entrer en dialogue, de se répondre. C'est une évolution par rapport à la conception plus traditionnelle de la polyphonie, qui consiste à superposer des lignes pour favoriser ce que l'on appelle le contrepoint, c'est-à-dire la rencontre des notes entre elles, en différents points. L'intégration des instruments aux œuvres vocales est également une nouveauté qu'il ramène d'Italie. De cette époque, nous restent les madrigaux italiens, unique œuvre profane que nous avons conservée, publiée à Venise en 1611. Déjà, un certain esprit monodique commence à poindre le bout de son nez. Lorsque je séjournais à Venise chez de vieux amis, je comprenais que l'art de la composition s'était assez modifié et que l'on avait abandonné en partie les rythmes d'autrefois en essayant de flatter les oreilles contemporaines par de nouvelles sensations. Pour te faire connaître ce nouveau genre comme produit de mon application, j'ai déployé esprit et force. Dédicace de Schütz au fils aîné de l'électeur de Saxe du premier volume des Symphonies Sacrae. C'est lors de son deuxième séjour à Venise, et c'est au contact de la leçon du maître Claudio Monteverdi, que Schütz va faire son entrée définitive dans la modernité, en assimilant le style monodique, les principes de la basse continue et la manière de dramatiser et d'interpréter le texte. L'œuvre qui symbolise ce tournant sera la première partie des Sinfonia Sacrae publiées en 1629. Suivront les Kleine Geistliche Konzerte, les petits concerts spirituels pour voix soliste avec basse continue sur des textes latins et allemands, et qui s'inscrivent définitivement dans la veine de la monodie accompagnée et de l'interprétation libre du texte tel que les Italiens l'ont inventé. Vous venez d'entendre Dorida Celce, l'un des madrigaux du premier livre de madrigaux d'Heinrich Schütz, opus 1, composé donc à Venise en 1611, l'unique œuvre profane de notre compositeur dont il nous reste aujourd'hui la trace. Et juste avant, vous aviez pu entendre un extrait de O Jesusus Verdein Gedenkt, un extrait des Sinfonia Sacrae, le troisième livre, lui datant de 1650. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez Harmonie du Soir et que nous évoquons aujourd'hui la vie et l'œuvre de Heinrich Schütz, celui que l'on appelle le père de la musique allemande. Une troisième phase, celle que l'on pourrait presque appeler un moment de la synthèse, va intervenir à la fin de la carrière et de la vie du compositeur, qui se retire sur ses terres natales et qui opère comme un retour à la tradition polyphonique, à celle de la core music allemande sans basse continue. Mais ce retour garde la trace de la musique moderne, comme si le musicien d'église avait été marqué par la musique de théâtre. L'œuvre qui symbolise ce nouveau passage, c'est sans conteste la troisième partie des Sinfonia Sacrae qui date de 1650. Pour parler en d'autres termes de ces différentes séquences créatrices, il faut insister sur la manière dont Schütz va progressivement intérioriser la monodie, pour en faire l'agent d'un message spirituel et d'une relation à Dieu à travers l'interprétation libre qu'elle permet du texte religieux. Là où les Italiens vont, au contraire, l'extérioriser pour en faire un agent de théâtralisation, de dramatisation du texte. Ce n'est peut-être pas un hasard si elle débouche en Italie sur la naissance et le développement de l'opéra, alors qu'en Allemagne, elle favorisera une musique religieuse porteuse de théâtralité, celle que l'on entendra quelques années plus tard dans les grandes passions de Jean-Sébastien Bach. Autre phénomène allemand, c'est la manière dont l'innovation et la modernité s'opèrent dans la musique sacrée et non dans la musique profane comme dans les pays de tradition catholique. Pour résumer cette évolution, il faut sans doute insister sur la façon dont Schütz se charge d'abord de donner une interprétation subjective du texte religieux, de parler de la relation de l'individu à Dieu pour ensuite, à la fin de sa carrière, revenir à une dimension plus objective et collective de la foi, celle de la communauté et du sentiment collectif, de la prière collective. Cette évolution, nous pouvons la déceler, notamment dans la manière dont Schütz traite les éléments de modernité et plus particulièrement la monodie. Er wird wohl machen, er wird wohl machen. Arrêtons-nous sur quelques œuvres emblématiques de la production du père de la musique allemande. Les Kleine Geistliche Konzerte, les petits concerts spirituels, témoignent de cet apport de la monodie accompagnée puisée à Venise auprès de la musique liturgique allemande. Ces pièces, allant de une à cinq voix, sont accompagnées par un continuo et sont écrites dans un style monodique qui laisse aussi sa part au contrepoint allemand. Ces effectifs réduits ne sont pas que la solution adoptée pour servir un nouveau style. Ils sont aussi la conséquence du contexte. En pleine guerre de 30 ans, les crédits sont supprimés, les musiciens manquent à l'appel et il faut donc écrire des ouvrages adaptés à cette situation. Un premier livre est publié en 1636, le deuxième livre est publié en 1639 et est dédié au prince du Danemark chez lequel Schütz a séjourné. L'ordre des pièces est organisé suivant la logique de progression du nombre de voix mobilisées. Elle s'appuie sur des textes allemands, à l'exception de quelques pièces en latin. Vous venez d'entendre Habe deine Lust an dem Herren, l'un des petits concerts spirituels de Heinrich Schütz, ici interprété par le concerto vocal. Vous avez peut-être reconnu la voix de René Jacobs, contre-ténor, et aussi peut-être celle de Sebastian Henning, l'un des enfants du chœur d'enfants de Hanovre, qui interprétait la partie de soprano de cette pièce. Et l'on peut peut-être préciser aussi qu'à l'orgue, il y avait dans cette version un certain William Christie. Alors je vous propose de rester avec ces petits concerts spirituels en écoutant un autre, Herr Unser Herrscher. C'était Herr Unser Herrscher, l'un des petits concerts spirituels de Heinrich Schütz, extrait du deuxième livre, toujours avec Sébastien Henning, du chœur d'enfants de Hanovre, qui assure ici la partie de soprano dans cette version du concerto vocal. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez comme tous les jeudis à 19h Harmonie du soir, et que nous déroulons aujourd'hui notre deuxième épisode d'une série consacrée à la musique vocale en Europe au XVIIe siècle avec Heinrich Schütz, le père de la musique allemande. Le troisième volume des Sinfoniae Sacrae témoigne de cette phase créatrice du compositeur qui renoue avec l'élan de la prière collective et qui fait reculer l'expression subjective propre aux pièces antérieures marquées par la monodie. Ce volume contient 21 motets pour 3 à 6 voix, deux parties instrumentales de dessus et continuo.
Thank you.
D'entendre Seid Barmherzig, l'une des Sinfonia Sacrae, extraite du volume 3 datant de 1650 de Heinrich Schütz. L'ensemble Musica Fiata l'interprétait ainsi que le chœur de chambre de Stuttgart sous la direction de Frieder Bernius. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM et que nous déroulons toujours cet épisode consacré à Heinrich Schütz. Je vous propose d'écouter une autre de ses Sinfoniae Sacrae, Siehe dieser wird gesetzt.
Diese wird gesetzt zu einem Pfarrer.
Venez d'entendre Siehe dieser wird gesetzt, l'une des Sinfonias Sacrae de Heinrich Schütz, extraite du troisième volume, datant de 1650. Elle était interprétée par l'ensemble Musica Fiata, le chœur de chambre de Stuttgart, sous la direction de Frieder Bernius. Je vous propose d'écouter maintenant des extraits de l'un des grands autres chefs-d'œuvre du compositeur allemand, à savoir l'Histoire de la Nativité. L'Histoire de la Nativité est une œuvre qui ne connaît pas d'équivalent antérieur dans l'histoire de la musique allemande. Il s'agit véritablement d'une innovation de la part de Schütz, qui compose cet oratorio assez éloigné de ce que seront ceux de Bach ou de Handel, mais qui en annonce pourtant quelques éléments. Les textes de Saint-Luc et de Saint-Matthieu constituent la matière littéraire du livret qui retrace l'histoire de la naissance du Christ. Le rôle de l'évangéliste, confié à une voix de ténor, est intégralement écrit dans le style nouveau du récitatif tel qu'il vient d'être inventé en Italie. La présence d'instruments, le caractère concertant de certaines parties, la caractérisation des personnages, autant d'éléments de modernité désormais totalement intégrés au style du compositeur. Il s'agit là de l'un de ses grands chefs-d'œuvre.
Es begab sich aber zu derselbigen Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger in Syrien war. Jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zu der Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselbigen Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie, und sie furchten sich sehr. Und ihr Engel sprach zu
Après la sinfonia d'ouverture, vous venez d'entendre un récitatif de l'évangéliste, puis un air de l'ange, extrait de cette histoire de la nativité de Heinrich Schütz. Je rappelle que vous êtes sur Aligre FM 93.1, que vous écoutez aujourd'hui le deuxième épisode de notre série consacrée à la musique vocale en Europe au XVIIe siècle. Nous évoquons ce soir l'œuvre et la vie du compositeur allemand Heinrich Schütz. Je vous propose de rester sur ce grand chef-d'œuvre qu'est cette histoire de la nativité.
Forsche fleißig nach dem Kindlein.
D'entendre à l'instant quelques extraits de cette histoire de la nativité du compositeur allemand Heinrich Schütz. Nous arrivons donc au terme de ce deuxième épisode de notre série consacrée à la musique vocale en Europe au XVIIe siècle, avec cette évocation de la figure de celui que l'on appelle le père de la musique allemande, Heinrich Schütz. La semaine prochaine, nous nous rendrons en Angleterre à la découverte de la vie et de l'œuvre de Henry Purcell. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site internet d'Aligre FM. Passez une très bonne soirée ainsi qu'une très bonne semaine à l'écoute du 93.1.